Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. La carte blanche de la semaine est donnée à The Operator. Avec un penchant pour les années 80, le duo est la deuxième signature française sur le légendaire label californien Italians Do It Better. Un extrait de leur live capté à Canal B en décembre 2023 est à retrouver en fin d'émission. Pour les deux albums découvertes de la semaine, focus sur deux projets solo. Celui du Strasbourgeois Théo Clu, qui vient de sortir son deuxième album, The Electric Soup. Mais tout de suite, rencontre avec le producteur de musique électronique, Usul, au micro de Marie de Sol FM.
Musicien prolixe, créateur vorace, producteur, précurseur, Usul expérimente et explore les méandres des musiques électroniques au gré de ses lives et de ses rencontres. Usul revient aujourd'hui sur ses terres croix-roussiennes avec Gros, son deuxième album solo, sorti récemment chez Slapknot, la branche techno de l'emblématique label lyonnais Jarring Effect. Bonjour Stéphane.
Hello.
Merci d'être présent une nouvelle fois dans les studios de Sol FM pour nous parler de cet album, Gros, qui vient tout juste de sortir. C'est un des choix des radios Ferrarock en ce moment. Un album techno, disais-je. Tes origines, tu les puises pourtant du côté du hip-hop à l'origine. Et l'aventure a été longue.
Oui, c'est une évolution. Alors après, on a commencé il y a longtemps. Moi, j'étais au départ un chanteur de reggae à dreadlocks quand même. Et puis l'évolution a fait que on a quand même eu le mouvement rave qui est arrivé en France. Et moi, je faisais partie de Kelly Live Dub, donc un groupe live. Je faisais les machines, les sons, le traitement des. C'est pour ça que j'ai eu les premières machines, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machines, donc j'ai eu les premières machines pour faire ça. Mais il y a tout de suite un petit peu le choc aussi avec le mouvement rave des free parties.
C'est ça.
Qui m'a un peu court-circuité, et j'ai toujours même dans Cali envoyé des influences justement de ces nouvelles cultures dans le son. Donc c'est toujours resté un peu sous-jacent quand même, la techno.
Alors, tu as toujours été un musicien curieux, et on dit souvent de toi précurseur, parce que à la fin des années 90, c'était le premier à aller chercher des machines qu'on n'avait encore jamais vues. Cette curiosité-là, c'est aussi ce qui t'a permis d'avoir le son que tu as aujourd'hui.
Oui, carrément. Moi, j'adore. Je suis un peu un touche-à-tout. C'est-à-dire que quand je maîtrise un style de musique, j'aime bien découvrir d'autres choses, tester d'autres choses, et j'aime bien renouveler. Donc, je vais prendre de nouveaux codes, de nouvelles influences. Donc, je vais souvent prendre chez les Anglo-Saxons parce que j'adore. Moi, on me dit que je suis un Anglais et j'adore. Donc, quand il y a eu le dubstep qui est apparu, j'étais dans les premiers à faire le dubstep.
Ouais.
Après, je fais de la trap musique, mais c'est avant que ça devienne commercial. En fait, chaque fois, dès que le mouvement après devient commercial, j'arrête. Parce que j'aime pas faire la même musique que les autres. Donc, je vais prendre encore un nouveau mouvement un peu obscur et essayer de relever le défi, de capter ses influences. Donc, je suis un peu un chercheur. Donc, des fois, ça peut un peu mettre mal à l'aise mon tourneur, ce qui me trouve les concerts, parce que en 6 mois de temps, je peux changer de style. Donc, même les mecs, des fois, en concert, ils font « Ah ouais, tu fais ça, mais waouh !» Wow. Mais j'adore, je suis un touche-à-tout et je trouve ça cool, et c'est peut-être des fois trop français de voir rester sur un style. Moi, j'aime bien goûter à tout. J'adore la zik, quoi qu'il en soit.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi dans ton parcours eu beaucoup de rencontres qui t'ont parfois amené sur des chemins de traverse. Il y a eu déjà le projet, par exemple, c'était Molécule, hein, projet qui était déjà.
Non, avec Molécule, c'était Granit, ça s'appelait.
Voilà, ok. Donc, des projets qui étaient, pour le coup, complètement tech.
Ouais, enfin là, c'était avec Molécule, c'était une demande du Télérama Dub Festival.
D'accord.
Et on était deux artistes dub, mais on faisait un peu de techno, et ils nous ont dit ça serait bien que vous fassiez une création ensemble. Donc on a eu ce truc-là, puis même j'ai surtout fait aussi la création Usul Prod avec Tito, donc guitariste de Noise.
Ouais.
Et là, on a fait un album de hip-hop Noise avec justement Odetti, un rappeur, et puis Groove Sparks, le vice-champion du monde de Scratch.
Ça avait été une belle aventure, ça.
Ouais, mais grave. Et en fait, chaque fois, j'adore faire des rencontres et. En fait, ce que je dis souvent, c'est que vu que dans Cali, j'ai fait 20 ans le même groupe, donc un peu avec le même coup comme un couple, avec les mêmes gens, à la répète, les mêmes tronches, que dès que j'ai arrêté ce groupe, j'avais envie de mélanger à d'autres champs, d'autres choses, d'autres gens. Et c'est pas encore fini, j'aime vraiment trop rencontrer des gens qui m'emmènent vers d'autres choses, quoi.
Pourtant, tes créations les plus emblématiques, c'est en solo que tu les as faites. La plupart du temps. Tu es un producteur assez actif, c'est le moins qu'on puisse en dire. Tu n'as jamais arrêté.
Non, toujours à fond, ouais.
Et là, donc, c'est ton deuxième album solo chez Jarring, Slapknot, et ça s'appelle Gros. Et tu dis, c'est un album concept.
C'est un album concept parce que au départ le disque, moi je pensais un album, je voulais faire un album sur les plantes. C'était le concept, c'était le plante, ben l'évolution de l'écologie, tout ça, ce qui est en train de, on est en train de nous péter à la gueule là. Donc j'avais fait Evolve il y a deux ans, qui était le concept de l'eau. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire un truc sur les plantes.
D'accord.
Et puis, il y a eu l'arrivée, donc, de un arrivée dans ma vie. Je suis devenu papa.
Ouais.
Et résultat, c'est un peu tout choqué. Et donc, le concept est arrivé d'un coup. C'est les plantes qui grandissent, les graines qui poussent, le gamin qui arrive, la société dans laquelle il va arriver. Que moi, ça me freine un peu à faire un enfant, en me disant, mais dans quoi je vais l'emmener? Et en fait, voilà, le concept, il s'est fait, il s'est maquetté comme ça d'un coup. J'ai eu tout, en une journée, j'ai eu tout dans la tête qui est arrivé, le nom des morceaux, tout le concept, c'est tout sorti d'un coup, quoi. Et je suis assez content du truc, quoi. C'est vraiment, c'est top, quoi.
Alors, un album, donc, je disais, qui est pourtant, tu disais, c'est un choc aussi émotionnel. Et c'est un album qui est lumineux, c'est quand même ça qui est drôle, je trouve, chez toi. C'est quand t'as connu sur des sons assez noirs. Et là, cet album, il est brillant. Il est fluide, il est chaleureux. C'est aussi parce que c'était quand même une force de vie au-delà de tout. Il s'appelle Gros, quoi. Donc ça grandit, ça entraîne.
Ouais. Puis il y a aussi c'est une évolution aussi parce que dans le temps aussi, on s'apaise peut-être. Même si maintenant je sais que je vais jouer dans des trucs quand même, c'est un peu la guerre, ça va être tard. Parce que moi, le but, c'est quand même de faire des concerts. Mais il y a un côté aussi peut-être un peu plus apaisé. Et puis le côté noise, j'en ai fait beaucoup. Avec Usulprod, on a fait quand même deux albums. Puis j'en ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de trucs où les gens, je vois, ils dansent pas du tout. Ils sont là en train de flipper. Et donc je me suis dit, j'ai pris le truc en me disant, je fais de la musique électronique. Parce qu'en techno, c'est déjà, j'ai mélangé plein de styles. Donc il y a des gens qui m'ont dit, oui, c'est trop ci, c'est trop ça. J'ai envie de faire de la musique pour kiffer. Et j'ai laissé, je me suis laissé aller à vraiment à avoir trouvé des morceaux qui me faisaient vraiment vibrer. Et donc, j'ai dois avoir en moi aussi un truc, voilà, un peu plus apaisé, un peu plus calme, un peu plus lumineux, quoi.
Bon, on va écouter un titre. Alors en français, ça s'appelle des graines jusqu'aux fleurs, en fait.
Voilà, c'est ça. Des graines qui poussent, qui deviennent des fleurs. Ouais.
Avec un joli featuring d'une chanteuse.
Oui.
C'est une copine à toi.
C'est une stagiaire.
D'accord.
C'est un truc de. Maintenant, je récupère les recrues dans mes stagiaires, on en reparlera, mais je suis formateur aussi, et voilà, c'est une belle rencontre aussi avec elle, et donc c'était sympa de faire cette création.
On écoute. Thank you. Extrait de l'album Grow, j'aime bien ce titre, Stéphane, qui est un titre justement plein de vie et qui montre aussi que tu as toujours aimé marier les machines, on avait déjà discuté il y a très longtemps de ça, et l'humain. L'humain n'est jamais très loin dans ta musique finalement.
Ouais, j'aime bien en fait, c'est que le problème c'est que en gros les machines, on est beaucoup sur la timeline, on est calé au tempo en gros, pour expliquer pour ceux qui ne captent pas trop, mais il faut vraiment respecter. Les machines, elles sont synchronisées. Et moi, j'aime bien quand ça sort un peu. Et en fait, c'est la force des musiciens ou des chanteurs. C'est qu'eux, ils vont décaler la mesure. Ils s'en foutent. Ils vont pouvoir se replaquer dessus. Et ce que souvent, quand je travaille avec quelqu'un, je lui dis, vas-y, fais-moi sortir du rail, en fait. Fais partir le morceau un peu en travers. Et après, justement, ça fait ce côté surprenant, même pour moi, même au niveau de la vibration. Il y a une teinte qui s'amène que moi, j'aurais pas pensé amener. Parce que c'est la voix, c'est un truc de fou. Moi, j'adore les voix de toute façon. Donc, j'ai eu plein de chanteuses dans plein de morceaux.
Oui.
Et là,
c'est une jolie rencontre.
Ouais. Et puis j'aime bien ce côté-là, ce côté pas sur la ligne des chanteurs et des instruments.
Cet album, tu l'as fait tout seul.
C'est ça. Je me suis dit cette fois-ci, je veux pas. Je veux avoir le moins d'intermédiaires entre le producteur et le.
Et
l'auditeur.
Ouais.
Je voulais pas, parce que bien sûr, chaque étape c'est cool, parce que travailler avec quelqu'un par exemple en studio, t'as des échanges, il va t'amener quelque chose. Mais comme moi j'ai fait Kali ou Hybrid Sound System ou toujours des duos avec Usul Prod, j'aime bien des fois aussi me dire je suis tout seul, même pour composer, parce que des fois t'es à deux, tu négocies. Là, je voulais raconter, c'est mon histoire.
Ouais.
Et dans la réalisation, je suis tellement arrivé à un moment où je me suis dit je veux qu'aussi l'empreinte sonore. C'est celle que j'attende.
Oui.
Et vu que, comme je te disais, je suis formateur en mixage, en production, en studio, je me suis dit qu'il était temps aussi que le prof qu'il montre un peu à ses stagiaires ce qu'il sait faire, et que je me mette les doigts un peu, que je me mette la pression. Donc c'était chaud, mais pour arriver à ce résultat-là, quoi.
Alors on en parle maintenant, si tu veux, de cet aspect-là de ta vie, donc le fait qu'effectivement tu sois prof.
Ouais.
Alors, tu formes les gens au logiciel de création sonore.
C'est ça. Je suis prof, alors je suis premier prof de dub, parce que je fais du dub au départ. Donc, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que moi, je voulais plus faire de dub, j'en avais marre, parce que le dub, les trois lettres, ça fait 20, 50 dub. Même le mot, je peux plus. Donc, je me suis dit, je vais arrêter.
Tu n'as plus de dreads,
En plus, j'ai plus les dreads, il n'y a plus rien qui colle, quoi.
C'est ça.
Et puis, même l'état d'esprit, la nouvelle génération, ils ont fait que nous, avec Kali et Hightone à l'époque, on avait un truc, on avait un peu changé les codes. On avait pris les bases rythmiques du dub et on avait amené plein d'influences européennes, parce que dans la culture européenne, on a amené. Et ils sont retournés maintenant au dub, un peu au truc jamaïcain avec les drapeaux, les bâtons dansants, machin. Et moi, c'était pas mon délire. Et donc, je me suis dit, par contre, j'ai envie d'expliquer parce qu'il y a plein de secrets qui sont super intéressants et à produire, c'est hyper fun. Donc voilà, donc j'étais donc le premier prof de dub en France. Et donc, je me suis associé avec Jarring et Les Escales Buissonnières, qui est une boîte au départ de cinéma.
De formation, là, maintenant.
Voilà, de formation de cinéma qui a été montée par les mecs de Kaamelott, la série lyonnaise, là, avec les chevaliers, là.
Et le chevalier, pas que.
Voilà, et pas que. Ouais. Et puis après, je me suis donc lancé aussi sur une formation donc de mixage, production, donc très très ouvert. C'est-à-dire que des fois, j'ai des rockers, des mecs qui font du métal, du jazz, du classique. C'est comment faire sonner un morceau, comment produire, être autonome. Donc ça a bien marché pendant le Covid, par exemple, parce que les gens se sont retrouvés en mode, je puis c'est tout bloqué, je peux plus rien faire. Donc voilà, donc j'ai et voilà, donc ça fait 7 ans que maintenant qu'on fait ça avec eux et ça marche bien et puis je m'épanouis bien, j'adore la transmission, j'adore.
Alors du coup, ça t'a mis quand même la pression parce que non seulement tu es musicien, mais aussi tu es enseignant, donc ça veut dire que tes élèves allaient se jeter sur tes productions pour voir si ça fonctionnait.
Et oui, donc là j'ai eu des premiers retours.
Tu y as pensé en créant ton album ?
Non, pas en créant, mais au mixage, ouais. C'est-à-dire respecter les règles que moi j'explique, parce que c'est facile de dire des choses à des stagiaires. Après, quand il faut l'appliquer à soi, quand moi j'ai des morceaux environ avec 50 pistes, qu'il faut faire l'équalisation de chaque piste, des fois on dit, moi celle-ci, je vais la faire vite fait. Et là je me suis dit, non. Je fais tout et je respecte les règles, les codes, tout ce que j'explique, parce qu'il y a, pour réussir à faire sonner un morceau, il y a des règles, il y a des trucs où il faut exposer les règles, comme Jimi Hendrix, il s'est permis de faire des choses de fou, mais il y a des trucs qui sont un peu obligatoires pour que ça marche. Donc je me suis dit, garde ces codes, les trucs obligatoires, respecte-les. Faut que ça soit mono compatible, par exemple, que la stéréo, enfin, il y a plein de choses qui font qu'un auditeur, même lambda, va mieux comprendre la musique, parce que le son, c'est vraiment important pour ça. Et donc, j'ai eu une bonne pression, ouais.
Alors, à l'heure des sons compressés, des réseaux sociaux, des MP3 tout pourris, toi, t'as pensé son, amplitude, texture,
ouais. Et ça. Après, sachant que même si ça va finir en... Il y en a, vous finirez pour écouter ça, une barre en mono toute pourrie. Hein. Mais bon, il faut penser aux pauvres, comme je dis souvent mes stagiaires, c'est-à-dire par exemple pour le grave, les basses, si on en met trop, il n'y a que les riches qui vont avoir un son sympa, parce que les mauvaises enceintes, souvent, elles vont tendance à saturer.
C'est ça.
Donc, il y a un niveau à se dire, faut pas que je mette trop de basses pour que ça soit... Que ça passe partout en fait, c'est ça le meilleur morceau, un morceau qui est bien, c'est un morceau qui est polyvalent, qui passe partout. Donc c'est la quête du Graal, hein, parce que ça n'existe pas, c'est quoi un bon morceau si tout le monde, enfin, sinon on ferait tous le même quoi. Mais voilà, essayer de respecter des trucs pour que ça soit le plus écoutable le plus possible et que ça soit le plus fédérateur quoi.
On va écouter un morceau qui s'appelle 23 chromosomes.
Ouais.
Tu nous en parles de ce morceau qui est un morceau fort de l'album.
Ouais, c'est un morceau fort et puis c'est un peu le futur parce que bien sûr, chaque fois, moi je suis quand même en train de préparer la suite comme d'habitude. Donc c'est vraiment le futur du truc. Puis ce que j'aime moi dans ce morceau, c'est cette vision cinématique. C'est-à-dire moi j'adore David Lynch, j'adore les films Blade Runner, j'adore cet univers un peu sombre. Et il y a ce côté-là, il y a un côté vachement cinématique. Moi tous mes morceaux, j'adore ce truc-là. Et là il y a un côté un peu sombre, un peu dark. Et il y en a pas mal qui m'ont dit ça fait musique de film, Matrix ou des trucs comme ça. Et ce côté un peu aussi sophistiqué. Et donc je suis content de ce titre. Et le 23 chromosomes, c'est mon côté quoi. Donc voilà, donc c'est ma partie un peu animale aussi qu'il y a dans ce morceau. Donc c'est un des morceaux qui est le plus rentre dedans, qui est le plus efficace quoi.
Théoclou, alias Théoclou, vient de sortir son deuxième album, The Electronic Soup, une pop lo-fi et un univers espiègle dont on en apprend plus avec Jordan de Radio Méga. C'était Straight Line Big Days de Théoclou, extrait de The Electric Soup, son nouvel album qui sort sur les labels Mouche Records et October Tone Records. Théoclou, en vrai, c'est Théoclou, un grand gamin qui fait de la musique enfantine, mais pas vraiment. Electric Soup est son premier album. Et il fait suite à Why Not Try, son premier EP, qui avait déjà fait pas mal parler de lui. Le Strasbourgeois est avec moi aujourd'hui pour parler de Electric Soup, son nouvel album donc. Merci de m'accorder cet entretien et bonjour Théo.
Salut, merci à vous.
Alors comme je disais, on vient d'écouter Straight Line Big Days et son groove digital tout bidouillé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce titre pour commencer cet entretien ?
Ouais, ben c'est marrant, en fait, en live, on faisait une reprise de Paul McCartney qui s'appelle Temporary Secretary, avant que je fasse cet album. Et j'ai eu envie de faire une espèce de petit hommage, donc pour moi c'est un peu un hommage à ce morceau-là, avec une espèce de sorte d'arpégiateur derrière de synthé qu'on comprend pas trop, qu'il y a des notes mais qu'il n'en a pas vraiment. Enfin, c'était l'idée d'avoir ce tapis de base et un truc un peu simple à la batterie mais qui fonctionne bien. Voilà, c'est mon petit hommage.
Et alors tu chantes très souvent, quasiment tout le temps dans tes morceaux, et il parle de quoi ce morceau ?
Il raconte une histoire, c'est un petit chapitre de l'histoire plus grande qui traverse tout l'album. Donc là c'est l'arrivée sur Terre du principal personnage qui découvre la Terre, hein, qui s'appelle Mouche.
Et dont on va parler bientôt, mais d'abord je voudrais parler avec toi des sons, puisque tu es présenté comme un bidouilleur de sons, et j'imagine ton studio rempli de plein de boutons, d'instruments en tout genre. Est-ce que tu peux nous dire qui sont tes instruments de prédilection ? J'ai bien dit qui, parce qu'au vu de ta bio que j'ai lue, et ce que j'ai pu lire à ton sujet, je te soupçonne d'être très proche émotionnellement de tes instruments.
ouais, effectivement. Alors, un des gros instruments qui, enfin, un des instruments qui a été le plus important pour moi dans cet album, c'est un Moog, qui est pris un synthé des années 70. Ils ont fait une version actuelle qui s'appelle Grandmother, donc la grand-mère. Et cette grand-mère, je l'ai beaucoup utilisée, je l'ai beaucoup bidouillée. J'ai cherché un peu dans tous ses recoins les sons qui en étaient sortables. Et donc je pense que ça fait partie des instruments principaux. J'ai beaucoup aimé aussi jouer avec un instrument que malheureusement je n'ai pas en vrai, mais j'utilise à la fois beaucoup de boutons dans mon studio, mais aussi beaucoup de choses numériques, parce qu'on a quand même accès à des outils incroyables numériquement. Et donc c'est le Bukla, qui est un autre synthé, qui est un vieux synthé des années 70, qui coûte très cher. Donc malheureusement je ne l'ai pas en vrai, c'est un peu un rêve. Voilà, mais ça a été aussi un truc très important, et justement le tapis sonore de Straight Line Big Day, c'est un Bukla, et c'est assez caractéristique comme son, qui est le son à l'opposé du son du Moog, parce qu'on parle de West Coast pour l'un et de East Coast pour l'autre, qui sont des termes de synthèse. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dedans, mais en tout cas voilà. Puis comme à mon habitude, la batterie et la basse ont une grande importance. J'aime beaucoup avoir une rythmique solide et puis après faire planer les synthés et autres instruments autour. Et puis, il y a pas mal de saxophones, il y a pas mal de voix. Voilà, cet album, si je devais le décrire. Et puis quand même, toujours de la guitare.
Mais alors, ça veut dire que... Tu fais comment quand t'es en live, en fait, parce que d'après ce que je vois, ce que je lis, c'est ton projet solo, Tio Clou, mais en fait, il y a plein de collaborations, il y a plein de gens qui sont crédités sur ce disque. Donc, comment ça se passe, en fait, t'as enregistré un album avec plein de gens, mais une fois que t'es sur scène, c'est toi tout seul avec les voix de ces gens qui sont enregistrés? Comment ça se passe?
Non, alors c'était un peu un casse-tête, effectivement. Ben, la plupart des choses, je les fais quand même chez moi, dans mon studio, à la maison. Pardon. Je fais notamment jouer mon batteur live, donc qui m'accompagne aussi en live, sur tous mes disques, qui s'appelle Gabin, qui commence à me connaître, donc qui commence à vraiment savoir faire ce dont j'ai envie. Et là, pour cet album-là, il y a eu pas mal de collaborations de voix, effectivement, qu'on essaye de recréer à 4 ou 5 sur scène. Donc, on est dans un format
donc
assez...
Donc, t'es pas tout seul sur scène,
je
ouais.
Je suis pas tout seul sur scène. Il y a batterie, basse, des claviers, guitare, et un saxophone quand je peux, quand il y a assez d'argent. Mais j'aime bien ramener mon ami Laure au saxophone. Et donc voilà, c'est un peu un casse-tête à recréer tout ça, parce que c'est vraiment beaucoup de pistes en studio, beaucoup de voix différentes. Donc on fait quelques compromis, mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai réussi à faire un truc qui se rapproche assez bien de l'album. Mais vu que ça a été assez long dans son processus pour créer ces choses-là et trouver le bon son, je suis plus dans l'optique de recréation de l'album plutôt que d'une adaptation live.
On va parler de ce disque et de son univers enfantin. En fait, je me suis dit, c'est un disque qui a un univers enfantin, mais l'innocence en moins. On a l'impression que c'est un peu une manière de s'évader du monde cruel sans s'en extraire complètement. On pourrait presque penser que tu fais de la pop de chambre et que tu nous invites à venir dans ce monde fait de plein de bidouilles, de sons, de tas de trucs, qui est un petit univers, mais qui n'est pas vraiment en fait si enfantin que ce que tu nous laisses l'entendre.
Oui, je crois qu'enfantin, ça vient surtout des mélodies que j'aime bien composer, qui sont notamment pas mal bordées de chromatisme, et aussi on est dans certaines gammes qui rappellent des génériques de dessins animés peut-être, ou des mélodies de chansons pour enfants, mais finalement c'est des chansons enfantines, mais qui sont quand même, comme tu le dis, pas si innocentes, quoi. J'aime bien ce terme, oui. Et je crois que quand même, rien que dans la texture, on sort du côté chanson pour enfants. Mais j'ai quand même appuyé cette idée-là avec une histoire qui parle d'enfants et d'enfants qui s'en vont de la Terre, en tout cas qui sont transportés ailleurs, de leur plein gré ou malgré eux. Ça, c'est un peu au choix à chacun de faire son interprétation.
Ce que je te propose, c'est qu'on écoute un nouvel extrait de cet album, et puis après on parlera justement de l'histoire de cet album, et puis de Mouche, le personnage principal, qui a d'ailleurs donné son nom à un des labels qui défend ce disque. Alors je vous propose tout de suite d'écouter donc un nouvel extrait de Electric Soup, donc c'est ton nouvel album que soutient la Ferra Rock, donc Tio Clou. On va écouter le morceau très dégingandé, je trouve, Snake Oil. Est-ce que tu peux aussi nous en dire quelques mots?
Ouais, alors c'est pour moi vraiment la suite du morceau précédent qui s'appelle The Jigs Up. Par exemple, sur scène, c'est vraiment un morceau qu'on enchaîne avec le précédent. Et ça parle de survivalisme, ça parle de parents survivalistes qui, voyant une catastrophe arrivée, disent que voilà, c'est bien ce qu'on vous avait dit.
Oh non. On écoute tout de suite Snake Oil de Tio Clou. Toujours à l'écoute de Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferra Rock. Nous venons d'écouter Snake Oil de Tio Clou dans l'album Electric Soup, émis à l'honneur cette semaine par les radios de la Ferra Rock. Je suis toujours avec Théo Clou, de son vrai nom, via les internets pour encore quelques instants d'interview. Alors, on le disait juste avant d'écouter ce morceau, que c'est toute une histoire, cet album Electric Soup, et il y a un personnage principal qui s'appelle Mouche et qu'on suit tout au long, en fait, de ce disque. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage? Peut-être est-ce que c'est une extension de toi? En tout cas, il ne parle pas en français. Il parle un petit peu en français de temps en temps, mais pas trop. Il dit vraiment tout en anglais. Alors, après nous avoir parlé de lui, tu nous diras pourquoi il ne parle pas vraiment en français, qu'il parle plutôt en anglais. Mais d'abord, si tu veux bien, dis-nous qui est Mouche et Et quelle est cette histoire dans Electric Soup dans laquelle il nous emmène?
Ouais, Mouche, je pense pas que ce soit une extension de moi-même, c'est plus un fantasme de quelqu'un d'autre. J'aime bien dire que c'est ni un père ni une mère, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de la mère et du côté rassurant de la mère qui vient récupérer ses enfants sur Terre. En fait, c'est un personnage qui s'est mis en tête avec conviction qu'il fallait que les enfants quittent cette terre parce que pour elle, c'est devenu un fruit pourri. Et via un joyau qui s'appelle le Special Gem, qui est un des morceaux de l'album, elle va permettre aux enfants de se transporter ailleurs. Et dans ce nouvel endroit qui s'appelle Lungarten, elle va proposer aux enfants de faire mijoter une soupe qui sera le point de départ d'un nouveau monde. Et cette soupe est constituée d'un seul ingrédient, c'est mouche. Donc c'est une sorte de sacrifice à la fin. Voilà, j'ai déjà révélé la fin. Mais
ah
en
bah
même
oui,
temps,
tu nous as tout, voilà, t'as spoilé
c'est
ton
pas
album.
Grave, c'est pas grave.
Non, je crois que c'est pas grave du tout.
C'est même important, je crois, de le spoiler.
Peut-être pour mieux le comprendre justement et se rendre compte qu'il y a effectivement toute une histoire parce que c'est pas forcément le cas de tous les albums.
Oui, et puis je pense que le concept album c'est un truc aussi un peu désuet, donc j'ai un peu envie d'insister là-dessus. Je crois que c'est difficile pour aujourd'hui d'imaginer que quelqu'un va écouter un album du début à la fin, et moi ça me tient à cœur, et même si ça paraît ouais, encore une fois, désuet, ça me paraît presque évident à force d'avoir fait ce disque que ce soit normal qu'un disque ait une histoire du début à la fin. Alors là, c'est une fiction et c'est presque un dessin animé. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je crois que j'avais envie de raconter une histoire. Pas forcément pour... C'est pas forcément pour le côté SF en fait que ça m'intéressait de faire cette histoire, mais plus pour les relations entre les enfants, entre les parents et les enfants, entre ce personnage et les parents, entre les parents, on va dire normaux, et les parents survivalistes. Je vais pas diviser les parents entre les survivalistes et les normaux, mais voilà, c'est plus les interactions sociales. Qui pouvait exister dans cette histoire qui m'intéressait, et qu'est-ce qui se passe quand un élément comme Mouche arrive comme ça dans la société, quoi. Un élément perturbateur qui pourrait être n'importe quoi, comme un virus par exemple, ou je ne sais.
Un virus dont le nom commencerait par
aucune idée. D'ailleurs, j'ai même pas commencé ce disque pendant cette période-là. Non.
Non, mais non, pas du tout. Il y a très très peu de disques qui ont été faits à cette période-là, d'ailleurs.
Pas du tout. Oui.
On verra sur ton prochain album. Mais justement, en fait, dans toutes ces histoires, il y a aussi un aspect très esthétique. Il y a notamment Nina Solier qui a réalisé un clip, peut-être plusieurs, en tout cas pour l'instant j'en ai vu qu'un. Quand on a un univers aussi riche d'imaginaire, je me dis qu'on ne peut pas s'affranchir des possibles qu'offrent de l'imagerie, de l'illustration. C'est quelque chose qui est important pour toi ?
Ah ouais, c'était vraiment quelque chose de très important dès le début. J'ai beaucoup travaillé avec des images en tête. Donc en général, je pique des images que je vois sur Internet, que j'aime bien, et puis ça m'inspire. Et puis après, je me dis « Oh, mais ça va être ça, ma pochette ». Et puis après, je change un peu d'avis, mais ça a été hyper important, et même j'aurais pas pu le concevoir sans cet aspect visuel, cet album-là. En tout cas, cet aspect visuel qui rappelle le dessin animé, quoi. Et du coup, l'illustration animée. Et ce qui a été super avec Nina Solier, c'est qu'on s'est hyper bien compris rapidement. Moi, j'avais des couleurs en tête, des attitudes de personnages en tête, et elle a fait le reste. Elle a inventé des choses qui vont super bien avec tout ça. Il y a 3 clips, en réalité, qui sont sortis. Et du coup, ça, voilà, son travail va de la pochette aux clips, aux affiches, aux goodies, à tout, quoi. Voilà, c'est un peu...
C'est la main qui dessine ta musique.
Total, ouais. C'est total.
Eh bien, écoute, on te souhaite une chouette tournée, en tout cas. Merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle que ton nouvel album, The Electric Soup, sort chez Mouche Records et Octoberton Records et qu'il est soutenu par le réseau des radios de la Ferrarock. Merci et salut.
Merci beaucoup. Merci, la Ferrarock. Merci, Jordan.
on se quitte avec Mouche March. C'est le dernier morceau de ton album.
Ah ouais, marrant de finir là-dessus, c'est bien.
Holds an empty dish. The spoon has melted. They're not belted anymore. Goodbye, safe waves.
Le vendredi 1er décembre 2023, The Operator sortent leur premier album, Dark Room. Une semaine après, on retrouve le duo pour un live dans les studios de la radio Ferrarock Canal B à Rennes, dans le cadre du festival des bars en trance. Sur les bords de la route, je rêverai.
SMS, moi. Car le soir, je m'ennuie tellement que je fume au lit. SMS, moi. Même si on n'y croit pas, même s'il n'y a pas d'amour, au moins y croire un jour. SMS, moi, qui pleure et puis qui jouit, qui aime tant la vie. SMS, moi, même si je comprends rien, même si j'interprète mal, car tu n'es pas banal. Et à l'horizontale, tu n'es pas banal. SMS moi, et ce soir j'ai envie de te dire des choses que je regretterai sûrement demain. La solitude fait de nous.
Opérateur avec nous dans les studios de Canal B, c'était le titre SMS moi de leur dernier album Dark Room, sorti il y a très très peu, là, le 1er décembre dernier sur le label Italians Do It Better.
To me.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Nous vous présentions Grow par le producteur Usul, sorti le 12 janvier chez Slab Notes, la branche techno du label Jarring Effect. Et enfin, retrouvez l'album de The Operator, Dark Room, côté Autre Manche, chez le label italien Sweet Peter, depuis le 1er décembre 2023. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.